Vous êtes bien sur Europe 1, il est 19h.
Europe 1 soir.
Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous. Des taux d'intérêt dépassant les 3%, 4 millions de mal logés. La crise du logement est aiguë et le gouvernement s'y attaque. Le taux d'usure va être revu chaque mois jusqu'à la fin de l'année. Les conditions d'emprunt assouplies pour les primo-accédants. Mais est-ce suffisant? Les professionnels du secteur sont, pour beaucoup d'entre eux, furieux. Si vous êtes bailleur, locataire ou en recherche, vous êtes les bienvenus en Stodart d'Europe 1. 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé, vous avez la parole dès 19h20, juste après le journal d'Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Le jugement à l'instant après la violente agression contre le petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens. Deux agresseurs sur trois sont condamnés à de la prison ferme. Les détails dans un instant avec Lionel Gougelot. Les proches de l'INSER reçus par le ministre de l'Éducation, la jeune fille s'était suicidée après avoir été harcelée. Déception pour la mère et son avocat qui auraient aimé du concret. Dans ce journal, Emmanuel Macron au Mont-Saint-Michel, symbole selon lui de l'esprit français de résistance à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Le témoignage d'un policier qui, avec son collègue, a sauvé trois vies dans la banlieue lyonnaise. Et puis notre rendez-vous quotidien avec Roland Garros. Qualification pour les quarts de Casper Ruud et chez les dames de Coco Gauff et Béatrice Haddad après 4 heures de match.
Le standard d'Europe 1, le 01 80 20 39 21. Nous parlons de la crise du logement après 19h20. 01 80 20 39 21. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Raphaël.
La tendance météo avec vous.
Alors le sud du pays reste sous la menace d'une averse ou d'un orage demain après-midi. Le nord reste au soleil. Et on fait un point complet en fin de journée.
À tout à l'heure Marlène. Des sanctions sévères après l'agression de Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu de Brigitte Macron.
Oui, violente agression il y a trois semaines devant la chocolaterie familiale en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. Lionel Gougelot, vous avez suivi l'audience devant le tribunal correctionnel et le jugement vient de tomber contre les trois hommes.
Oui, effectivement, jugement moins sévère que ce qui avait été réclamé par le procureur de la République, qui avait requis 3 ans et demi, 2 ans et demi et 1 an et demi de prison pour les trois accusés. Le troisième prévenu étant finalement relaxé au bénéfice du doute et les deux autres prévenus, l'un étant condamné à 15 mois de prison ferme, l'autre à 12 mois de prison ferme. Un jugement salué par le père de Jean-Baptiste Trogneux, Jean-Alexandre Trogneux, désireux de tourner la page et satisfait, vous allez l'entendre, que son fils ait été finalement reconnu bel et bien comme victime.
Jean-Baptiste va mieux, il mettra un petit peu de temps à se remettre entièrement, mais nous sommes confiants et nous restons tous unis autour de lui. La famille Trogneux et tous les collaborateurs de la chocolaterie Trogneux aspirent maintenant à la sérénité et au respect, en espérant que plus aucun amalgame ne soit fait sur notre nom de famille.
Alors, les deux prévenus condamnés à de la prison ferme ont été maintenus en détention. Ce soir, je vous le disais, dans son réquisitoire, le représentant du ministère public s'était montré très sévère. La culpabilité des trois prévenus ne faisant, selon lui, aucun doute. Ils ont été formellement reconnus par leurs victimes, Jean-Baptiste Trogneux, mais aussi par d'autres témoins présents dans l'attroupement face à la boutique ce soir-là. Et ils savaient très bien qu'ils s'attaquaient sur le procureur qui dit vouloir, par ailleurs, se montrer inflexible face à ce type de violence gratuite, sauvage et lâche. Dans le box des prévenus, on a vu trois jeunes hommes qui accusaient le coup. Au cours des débats, ils ont tenté soit de minimiser leur geste. Une simple gifle, a dit l'un d'eux. Un collègue a retenu mon poing avant que je le frappe, dit l'autre. Quant au troisième, il assure n'avoir absolument rien à se reprocher. Il était là, assure-t-il, pour faire des vidéos en tant que journaliste indépendant. C'est donc lui qui a été donc ce soir relaxé par le tribunal correctionnel de d'Amiens. Audience marquée par des explications confuses de ces trois prévenus décrits comme marginaux, déjà condamnés pour des violences et des agressions. L'un d'eux a même traité de menteur le témoin qui s'était porté au secours de Jean-Baptiste Trogneux, ajoutant que s'il s'était retrouvé en train de manifester devant la chocolaterie Trogneux, c'est parce qu'il trouvait que les chocolats étaient trop chers.
Lionel Gougelot en direct d'Amiens pour Europe 1. Et je vous rappelle donc les deux peines prononcées, 1 an et 15 mois de prison ferme.
Autre affaire dont on a beaucoup parlé, le suicide de l'INSEE, 13 ans, harcelé dans son collège du Pas-de-Calais.
Et sa famille était reçue par Pap Ndiaye au ministère de l'Éducation cet après-midi. À la sortie, la mère de l'adolescente était très déçue, son avocat aussi.
Pour moi, ça me semble insuffisant. Je me sens seule.
pas aidé. Moi, je ne l'ai pas trouvé sincère, en fait.
Il y a un goût amer à la sortie de cet entretien, puisque rien de concret n'a été proposé. C'est un programme massif que nous demandons de sensibilisation des écoliers, des collégiens, des lycéens, donc avec la participation, l'association des parents, des professeurs, des instituteurs. Ça demande des moyens considérables et rien n'a été proposé à ce niveau-là. Nous avons le sentiment que la prise de conscience est réelle, mais qu'elle n'est pas très profonde, très sérieuse, elle reste peut-être de surface. Nous attendons de voir des actes. Et puis le deuxième élément important que moi j'ai trouvé effrayant, c'est l'aveu d'impuissance du ministre lui-même, de l'État français vis-à-vis des réseaux sociaux, qui nous a expliqué noir sur blanc que la France aujourd'hui était totalement incapable de résorber ce déchaînement de haine et de violence sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok.
La mère de l'INSEE et son avocat Maître Debuisson au micro européen de Clément Barguin. Un harcèlement scolaire et un suicide en janvier dernier. Lucas, 13 ans, avait mis fin à ses jours à Golbey en Lorraine. Le tribunal pour enfants d'Épinal condamne 4 collégiens, de garçons et de filles, uniquement pour harcèlement scolaire. En revanche, la justice considère qu'il n'y a pas de lien de causalité avec le suicide de Lucas.
Emmanuel Macron prend fait et cause pour un petit garçon de 8 ans agressé samedi lors d'un match de foot à Ajaccio.
Kenzo, atteint d'un cancer du cerveau, avait été invité au match par une association. Il avait juste eu le malheur de porter un maillot aux couleurs de l'OM. Emmanuel Macron, en déplacement au Mont-Saint-Michel, fait part de son soutien à la famille.
Comme toutes les violences, c'est évidemment inacceptable. J'ai une pensée très émue pour Kenzo, ses parents. Il a à se battre et il se bat avec beaucoup de courage contre la maladie. C'est un supporter fidèle et rien ne justifie cela. Mais ça montre, vous voyez, une espèce de dérive et on a raison de ne pas s'y habituer. Et donc j'attends que les sanctions les plus claires, fortes soient prises. Nous allons tous et toutes continuer d'être aux côtés de la famille aussi pour que... Il puisse se relever de ce traumatisme et sa famille avec lui, parce qu'ils ont déjà, je le disais, des combats très importants.
Emmanuel Macron, à votre micro, Jacques Serret, un président venu célébrer le millénaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel et qui fait de ce déplacement un symbole politique.
Oui, c'est l'image du jour, Emmanuel Macron au Mont-Saint-Michel, et comme s'il s'agissait d'envoyer une carte postale aux Français, mais surtout à ses opposants, le chef de l'État file la métaphore.
C'est un lieu qui est au cœur de notre histoire, qui nous enseigne cet esprit de résistance que nous avons su à chaque fois avoir et d'élévation. C'est ça l'enseignement du Mont-Saint-Michel.
L'élévation à la veille d'une nouvelle journée contre la réforme des retraites, ou comment Emmanuel Macron s'attelle désormais à vanter la France éternelle.
Cet esprit, si je puis dire, il doit nous donner la force de relever les grands défis qui sont les nôtres. On peut soit sombrer dans une espèce de déclinisme, de peur, d'angoisse ou de confrontation, soit considérer que notre histoire nous enseigne qu'on a toujours su, en regardant loin, nous nourrir de ces moments de tension pour construire quelque chose de plus grand que nous.
L'occasion également pour lui de répondre sur les rumeurs de tension avec Elisabeth Borne.
Ce qu'on a voulu créer avec la Première ministre n'est même pas de la littérature, mais du clapotis. Et donc, on a autre chose à faire devant de tels lieux que de commenter cela. Mais là aussi, il faut de la rigueur, parce que sinon, on crée en quelque sorte des bulles de savon et il n'y a même plus de mousse.
Le chef de l'État, qui après un bain de foule au milieu des touristes, a prononcé ces mots lors de son discours. Ce lieu nous ramène à ces confluences du passé qui nous permettent d'embrasser l'avenir sans nous diviser. Demain, son périple normandera sur les plages du débarquement.
Jacques Serret en direct du Mont-Saint-Michel. Emmanuel Macron y faisait allusion de manière sibylline. Nous sommes à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 250 actions prévues avec 400 à 600 000 personnes. Dans les transports, peu de perturbations. 9 trains sur 10 en circulation. À la RATP, trafic normal. Et au départ d'Orly, un tiers des vols annulés.
Rendons maintenant hommage à deux héros, deux policiers. Ils ont sauvé la vie de 3 personnes le week-end dernier dans la banlieue lyonnaise.
Oui, une mère de famille et ses deux jeunes enfants piégés dans leur voiture par la brusque montée des eaux après des pluies diluviennes. Coup de chance, 2 policiers municipaux en patrouille ont pu les secourir. Écoutez le récit de Maxime, interrogé par Jean-Luc Bougeot.
Il y avait énormément d'eau qui tombait. On a aperçu un véhicule. À ce même moment, on a vu une dame qui était en panique. Donc, ni une ni deux, sans réfléchir, on s'est tout de suite jeté à son secours. Il y avait 2 enfants à bord de ce véhicule, 5 et 7 ans. Les enfants avaient de l'eau à peu près jusqu'au menton, donc c'était vraiment urgent.
Voilà. Il y avait quelle profondeur d'eau ?
Au plus profond, 1m80. J'ai plongé directement en l'eau et j'ai demandé à la dame ce qui se passait, si c'était ses enfants. Elle m'a dit oui, c'est ses enfants. Donc j'ai tout de suite pris le premier enfant qui était devant moi. Je l'ai amené derrière en position de sécurité à mon collègue. Et ensuite, je suis allé rechercher le deuxième enfant sous l'eau et je l'ai redonné à mon collègue également. Nous, c'est pas le moment de paniquer, c'est pas le moment de stresser. Il faut y aller, il faut faut porter assistance. C'est notre métier de policier, tout simplement. Je suis pas un héros. Vous savez, il y a énormément de policiers qui font le même travail que nous tous les jours, c'est quotidien. On n'est pas là que pour la répression, on est là pour aider tout le monde, n'importe quelle personne, on est là pour les aider.
Et les enfants, qu'est-ce qu'ils vous ont dit après, ou la maman?
Ah, les enfants, on les a rassurés dans le véhicule de service. Ils voulaient mettre le pimpon, comme ils disaient. Donc on leur a mis le pimpon pour les rassurer, et ensuite on les a donnés aux parents, et voilà, tout s'est bien passé.
Voilà, coup de chapeau à Maxime, tout en modestie malgré son héroïsme.
Restez avec nous sur Europe 1, il est 19h10 dans un instant. Le plan logement annoncé par Elisabeth Borne, absolument pas convaincant selon les professionnels. Nous en parlons d'ailleurs avec vous à partir de 19h20. Le numéro du standard d'Europe 1, 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé, à tout de suite.
Europe 1 soir.
19h, 20h,
Raphaël Delvolvé.
19h12 sur Europe 1, nous en parlerons tout à l'heure avec vous au standard d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Plus de 4 millions de personnes en France mal logées, et fort de ce constat, le gouvernement promet d'agir pour faciliter l'accès à la propriété et à la location.
Oui, en pleine crise de l'immobilier, Elisabeth Borne vient de présenter ce soir le plan logement issu des discussions du CNR, le Conseil National de la Refondation. Maintien du prêt à taux zéro pour 3 ans, mais en plus resserré, fin du dispositif Pinel, ou encore développement du bail réel solidaire qui permet d'acquérir un logement moins cher sans être propriétaire du foncier. En tout cas, Aurélien Fleureau, pas de quoi emballer les professionnels.
Oui, parce que si le constat de crise du logement, de situation d'urgence a été partagé par la Première ministre, il n'y a pas eu l'électrochoc attendu par la profession. Quelques mesures tout de même annoncées par Elisabeth Borne, notamment, vous l'avez dit, le prolongement du prêt à taux zéro sous une nouvelle forme.
Nous avons décidé de le prolonger. Aussi, le prochain projet de loi de finances proposera un nouveau prêt à taux zéro jusqu'en 2027. Il sera recentré sur les logements collectifs neufs en zone tendue et sur l'ancien sous condition de rénovation dans les zones détendues.
Une mesure qui, comme l'ensemble du discours de la Première ministre, n'a pas du tout rassuré le secteur. Loïc Quentin, président de la FNAIM.
Ce sont des mesures qui ne sont pas à la hauteur de la situation. Ce sont des mesures qui vont continuer à plonger la France et notre pays dans une grave crise de l'immobilier comme elle n'a pas connue depuis plusieurs décennies. On n'a même pas cité une seule fois le terme syndic de copropriété. Pourtant, nous sommes les grands acteurs. La rénovation énergétique de demain, 92% du parc est géré par les professionnels. C'est une forme d'insulte et de mépris pour la corporation que je représente.
Alors, simplifier MaPrimeRénov ou encore doubler le nombre de bénéficiaires de la garantie Visale, cela va dans le bon sens, mais clairement, cela ne suffira pas à calmer cette grosse déception des professionnels de l'immobilier ici, qui attendaient beaucoup mieux après 7 mois de travaux au sein de ce Conseil National de la Refondation.
Aurélien Fleureau, vous venez donc d'assister à la présentation officielle de ce plan.
Voilà, si vous êtes professionnel, bailleur, locataire, en recherche de logement, appelez-nous au standard d'Europe 1, le 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Nous serons tout à l'heure avec Maëlle Bernier, porte-parole de meilleurtaux.com. Le football, il faut attendre une semaine avant de savoir si l'équipe de Bordeaux accède bien à la Ligue 1.
Et oui, parce que vendredi, le match face à Rodez, essentiel pour l'éventuelle montée des Girondins en Ligue 1, mais aussi pour la relégation possible d'Annecy, avait été interrompu au bout d'une vingtaine de minutes de jeu. Un supporter bordelais descendu sur la pelouse avait agressé un joueur de l'équipe adverse. Les maires de Bordeaux et d'Annecy ont écrit à la ministre des Sports pour demander que ce match soit rejoué. L'élu de Bordeaux, Pierre Urmic, explique pourquoi.
J'espère que ce sera l'équité sportive qui aura le dernier mot, et pour la ville de Bordeaux, et également pour la ville d'Annecy, qui ne doit pas être un dommage collatéral. C'est la raison pour laquelle j'ai été en contact avec mon collègue maire d'Annecy pour faire une démarche commune auprès de la ministre des Sports, pour dire nous ce que nous souhaitons, c'est que ce soit l'équité sportive qui ait le dernier mot, tout en condamnant avec toute la virulence nécessaire ce qui s'est passé vendredi soir dans les tribunes, mais qui ne ressemble pas à ce qu'est le public bordelais. On ne voudrait pas que toute une saison sportive puisse être condamnée au nom de l'exaction d'un individu parfaitement isolé. Il faut que ce soit le sport qui ait le dernier mot, et j'espère que la commission des disciplines de la Ligue tranchera en ce sens.
Le maire de Bordeaux, micro-européen de Stéphane Place, le supporter mis en cause, comparaîtra en novembre prochain devant le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Allez, on prend nos raquettes, on enfile nos baskets et on part sur la terre battue de Roland-Garros.
Tout de suite, retrouvez Direct Match avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Et c'est une incroyable bataille qui se dispute en ce moment sur le court Suzanne Lenglen entre le Danois Runeux et l'Argentin Cerundolo Cédric Chasseur.
Oui, 3h51 de match ce cours, Suzanne Lenglen. Et bien, personne pour l'instant ne se détache dans cette cinquième manche. 2-7 partout, 7-6 dans la première pour Rouneux, 6-3 pour Cerundolo dans la deuxième. Rouneux avait repris l'avantage 6-4 dans la troisième. Cerundolo à nouveau avait égalisé à deux manches partout, 6-1 dans la quatrième, 6 partout. Jeu décisif dans cette cinquième manche, 3h51. C'est la première fois dans ce tournoi que Rouneux se retrouve comme ça à devoir aller chercher dans ses ressources pour essayer de l'emporter. Première fois qu'il perd aussi des 7, 2-7 dans un match. Et on verra dans quelques instants qui de Rouneux ou de Cerundolo s'imposera dans ce match sur le Suzanne Lenglen.
Cédric Chasseur, donc en direct de Roland-Garros sur Europe 1, radio officielle du tournoi. Et d'ailleurs, notez que ce soir, depuis notre studio à Roland-Garros, Europe 1 Sport vous proposera une émission spéciale consacrée à l'anniversaire des 40 ans de la victoire de Yannick Noah en finale face à Mats Wilander. Plusieurs invités de marque seront présents autour de Lionel Rousseau, Jean-Paul Lhot, directeur technique national à l'époque, ou encore Hervé Dutu qui avait commenté la rencontre. Allez, les marchés financiers. Didier Hameau de boursier.com. Paris repère du terrain.
Oui, moins de suspense en bourse. Hein. Après deux séances de rebond, le CAC 40 débute la semaine en repli de 0,96%, 7200 points, de retour juste sur cette barre des 7200 points. L'actualité financière du jour était à chercher du côté du pétrole qui remonte assez nettement de 2%, 77,50 $ le baril après la décision de l'Arabie Saoudite d'abaisser sa production pour tenter de faire remonter les cours du pétrole. Cela pèse évidemment sur la tendance en Europe. La bourse de Francfort recule de 0,5%. Madrid, moins 0,3%. Le CAC 40, moins 0,96%. 7200 points.
Merci Didier Hameau.
Et merci à vous Hélène Zélani. À tout à l'heure, 20h pour un nouveau point sur l'information, un nouveau journal, disons-le plus simplement. On en vient au temps, à la météo, avec Marlène Duret. Marlène, encore des orages pour demain dans le sud.
Oui, absolument. Sud-Aquitaine, Sud-Midi-Pyrénées, jusqu'au Gers, avant de s'étendre en journée à l'ensemble de l'Occitanie, à une partie de l'Auvergne, au Limousin et jusqu'aux Charentes. Alors des cumuls de pluie qui s'annoncent plus modérés que dans le sud-est ces derniers jours. Hein. Ah oui. De Rhône-Alpes à la Provence, Alpes-Côte d'Azur justement et à la Corse, la première partie de la journée sera calme demain. Dans l'après-midi, des orages se déclencheront essentiellement sur les Alpes et la montagne Corse. Le risque d'averse est plus isolé en vallée du Rhône, dans un ciel qui va se charger au fil des heures. Et puis au nord d'une ligne Nantes-Bourges Besançon, grosso modo. Le temps sera ensoleillé toute la journée, à l'exception toujours des côtes de la Manche où les grisailles côtières circuleront en matinée.
Au niveau des températures, on reste sur la même tendance toute cette semaine.
Et oui, même jusqu'à samedi, hein, les températures vont continuer à monter. Alors demain, les maximales peuvent atteindre les 30 degrés en vallée du Rhône, à Lyon par exemple. 29-30 est également attendu de la Vendée au Poitou-Charentes, dans le Berry, dans le nord du Limousin et la Nièvre. Ailleurs, il fera généralement 24 à 28, et puis toujours un petit peu moins le long des côtes de la Manche avec 16 à 20 degrés. Et puis les 30 degrés près de l'Atlantique auront tendance à se généraliser pour les jours suivants.
Et ça
toute la façade
finir
ouest.
Finir par éclater en orage tout ça.
Absolument, hein. La façade
pour
ouest.
Pour ce week-end, voilà.
Voilà, donc à partir de vendredi pour la façade atlantique, et puis ça va s'élargir.
Merci Marlène, je ne pourrais pas jouer au tennis. Merci beaucoup.
Hein, désolé.
Voilà. Bon, revenez nous dire ça tout à l'heure, peu après 23h, 23h07, un nouveau point sur le temps avec Marlène Duret. Je vous rappelle le numéro du standard d'Europe 1, 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21. On parle ce soir de la crise du logement et de ces mesures annoncées par le gouvernement, mesures de très court terme, hein. Disons-nous les choses franchement. Nous serons avec la spécialiste Maëlle Bernier, porte-parole de meilleurtaux.com. Nous vous attendons au standard d'Europe 1. À tout de suite.